C'est le moment de retrouver la chronique Jeux de société de Silence en Joue avec Jérémy Kletskin. Salut, Jérémy.
Bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode entretien de la chronique Jeux de société de Silence on Joue. Ceci est une introduction préliminaire, je m'adresse de manière plus intime et directement aux auditeurs. Je prendrai évidemment le temps d'expliquer un petit peu le contexte aux invités, mais comme je sais qu'il est très facile entre ce prologue et l'introduction devant les invités de se répéter, eh bien j'ai fait le choix, conscient et sage aussi je pense, de n'inclure aucun contenu dans cette première partie d'épisode. Je vous propose donc d'écouter et de découvrir mon introduction en même temps que les invités. Bonne écoute. J'en ai parlé lors du final de la saison 16 du podcast Silence on joue tout court, que certains auditeurs connaissent peut-être. Cette saison 2022-2023 a été très prolifique en termes de jeux de société. J'ai cité quelques jeux qui, selon moi, sont sortis du lot, comme un certain Splito, dont j'ai dit beaucoup de bien. Vous pouvez d'ailleurs vous référer à la chronique numéro 139 de ce podcast pour vous rafraîchir la mémoire et m'écouter brillamment décrire sa mécanique. Et donc je me suis dit, maintenant qu'on a ce flux rien qu'à nous, rien que pour le jeu de société, et que ça serait une bonne idée de s'organiser des entretiens rien qu'à nous. Et comme j'avais plein de questions à propos de Splito, je me suis dit, parlons-en avec les intéressés. Et donc j'ai le plaisir de recevoir Simon Villot de chez Blam, tu es l'éditeur. Bonjour Simon.
Bonjour, merci beaucoup de l'invitation.
Et Luc Raymond, un des auteurs. Bonjour Luc.
Bonjour Jérémy.
Alors on vous chope ensemble parce que vous êtes au Flip en ce moment, c'est ça ?
Exactement.
Exactement.
Le bon endroit pour parler de Splito.
Le Flip, c'est le festival ludique international de Parthenay dans les Deux-Sèvres qui se déroule en juillet tous les ans. On en reparlera un petit peu plus tard évidemment, votre actualité, ce que vous faites là-bas, etc. etc., etc. Simon, alors on va commencer avec toi. Alors, j'ai appris que tu étais un auditeur de Silence on Joue, et puis pas simplement un auditeur occasionnel. Je te laisse te présenter en quelques mots.
Eh bien, donc moi, je suis le directeur éditorial de Blam. Globalement, ça veut dire que c'est moi qui pilote l'entreprise, parce que créer un jeu de société, il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde. Il y a des auteurs avec qui je travaille en étroite collaboration, mais aussi, des illustrateurs, des relecteurs, des fabricants, des usines. Voilà. C'est moi qui pilote un petit peu tout ça avec une équipe vraiment incroyable qui nous permet de faire ça, de sortir un ou deux, trois jeux par an. C'est vraiment top. Et comme tu disais, moi, je suis un auditeur de Silence on Joue depuis, je pense, plus de 10 ans. Je crois que j'ai pris un coup de vieux comme tout le monde quand il compte le nombre de saisons. Donc, un auditeur assidu. Et puis, du coup, j'étais ravi de voir depuis le début Monsieur Fall. D'ailleurs, c'est avec Monsieur Fall et sur Trick Track que j'ai découvert Silence on Joue et que depuis j'écoute chaque épisode.
Luc, alors toi tu as commencé assez récemment, mais tu as quand même une demi-douzaine de jeux à ton actif, n'est-ce pas ? Et je précise d'ailleurs que tu es co-auteur avec Romaric, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, avec Romaric Gallonier sur Splito. Alors moi c'est récent que ça commence à sortir, mais ça fait déjà 6-7 ans que je m'y penche et que je fais ça la nuit. Et effectivement, les premiers sont sortis l'an dernier, des jeux enfants, et puis Splito, et puis après il y en a d'autres qui vont arriver ces prochaines années.
Romaric, lui, il a été l'auteur de Focus, de Space Aztecs, qui ont été chroniqués dans le podcast.
Peut-être de Profiler aussi, je pense.
Profiler, c'est un gros carton, en effet. Ouais. En ce qui concerne Splito, ce qui nous intéresse un petit peu, c'est que tu puisses nous présenter un peu la genèse, peut-être ta rencontre avec Romaric, l'inspiration.
Je te dis justement qu'on est au bon endroit ici à Parthenay, parce que c'est là que depuis 6, 7, 8 ans, on se croise tous les étés avec Romaric. C'est un festival qu'on aime tous les deux, qu'on aime beaucoup. On est souvent ensemble sous la tente créateur, parce qu'il y a l'occasion de montrer des protos au public. Le festival est notamment fait pour ça, et ça se passe très bien. Et à force de se rencontrer ici, on a décidé d'essayer de faire quelque chose ensemble. On le fait en visio, parce que lui, il est de Toulouse et moi de Dijon. Et peu avant le festival, il y a 2 ans, on a commencé à faire 2-3 visios pour créer ce jeu, pour créer ce qu'allait devenir Splito. Et c'est bien ici à Parthenay qu'on l'a sorti pour la première fois pour faire nos tests avec un peu plus de public et qu'on a croisé Simon. Et c'est là que l'aventure a commencé. Simon était un des premiers à croiser le jeu. Il nous le dira, a priori il a eu un coup de cœur parce qu'il est reparti avec dès le premier essai. Et puis l'aventure a commencé et a été très vite.
Alors c'est vrai que Blam c'est une petite équipe, donc j'imagine que quand ils font un choix sur un jeu, c'est quand même à la fois un grand risque et un grand investissement pour l'éditeur. Alors Simon, de ton côté, raconte-nous un petit peu sous ton angle.
Je crois que c'est quelque chose que j'explique beaucoup quand je suis avec des réunions, quand j'explique un peu mon métier, surtout sur le choix des jeux qu'on doit éditer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand on présente un jeu qui a une promesse assez simple sur le jeu, qu'on comprend tout de suite, qui nous attire et auquel on a envie de jouer. On n'a pas besoin d'avoir toute l'explication des règles, de la thématique, etc. pour être capté par le jeu. Et du coup, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, ce jeu-là, c'était absolument pas prévu qu'on se voit avec Luc. Luc, c'est un auteur avec qui on échangeait par mail régulièrement. Et il m'avait pas prévenu qu'ils avaient ce jeu-là, parce que comme il l'a dit, c'était un jeu qui était tout récent, où il n'était pas vraiment fini de leur côté, en tout cas, ils avaient l'impression. Et en fait, on se retrouve sous sa tente, où il est en fait dans une réunion avec quelqu'un d'autre, où il présente ses jeux pour enfants. Moi, j'avais rendez-vous avec la personne avec qui il avait rendez-vous juste après. Donc, j'écoute, intéressé, comme toujours, la présentation de tous ces jeux un par un. La plupart, je les avais déjà entendu parler. Et donc, j'écoute d'un œil distrait. Et puis là, il sort Splito. Je regarde un peu d'un air curieux. Disant, tiens, ça, j'ai jamais vu. C'est rigolo. Et du coup, il m'explique. Et là, j'avoue que je flash complètement sur la mécanique du jeu. Comme on rappelle très vite, c'est-à-dire qu'on joue avec nos deux voisins des cartes et du coup, il va falloir négocier un petit peu avec nos deux voisins. Ça va créer de la discussion, mais c'est un jeu qui est très, très simple. Je flash complètement et je lui dis, écoute, j'aimerais bien le prendre ce soir. Moi, je suis avec mon distributeur dans une maison parce qu'ils ont un séminaire où on est tous ensemble. J'aimerais bien leur faire jouer pour voir si eux aussi ont ce ressenti que j'ai d'immédiateté, de fun, de discussion. C'est un jeu qui joue à 8. Enfin, c'était un peu le jeu un peu parfait. Donc, d'abord, il me dit, oula, calme-toi. D'abord, viens y jouer avec les autres. Viens y jouer. Donc, c'est vrai qu'on fait 3, 4, 5 parties sur le salon avec du public. Et j'avoue que c'était moi ma première expérience de faire jouer du public sur un salon. Et c'était effectivement très agréable de voir des gens qui découvrent un jeu sur un salon, en tout cas un prototype évidemment. Et du coup, tout se confirme et je le prends le soir même. Je le fais jouer à pas mal de monde, à nos distributeurs, c'est-à-dire à des commerciaux, aux responsables, etc. Et tout le monde a le même avis. Et du coup, le lendemain, je lui rends son prototype en disant « Écoute, Luc, je crois que j'aimerais vraiment le faire. »
C'était un coup de cœur. En fait, je t'avoue que moi aussi, cette mécanique un petit peu qui propose de principalement jouer avec nos voisins de droite et de gauche permet vraiment d'étendre à beaucoup, beaucoup de joueurs et pourtant pas passer trop de temps avec de la paralysie analytique d'un tour à l'autre. Bon, c'est pas un concept qui est tout à fait nouveau. Il y a des Between Two Cities ou même Seven Wonders comme ça qui fonctionnent sur ce principe. On va principalement jouer avec ses voisins. Quelles étaient tes inspirations, Luc? Comment est-ce que l'idée est venue de ce jeu?
Eh ben, l'idée au départ, c'était effectivement d'avoir un jeu autour duquel on puisse être nombreux. Et donc, pour qu'on puisse être nombreux, il fallait que ce soit déjà en simultané, qu'on joue en simultané. Et on voulait de l'interaction et on s'est dit, un cercle, ça marche bien. Si on joue avec nos voisins, quelle que soit la taille du cercle, tout le monde aura ces deux interactions-là. Donc, on est parti sur ce principe-là. Au départ, il s'agissait peut-être d'attaquer d'un côté, de défendre de l'autre. Et puis peu à peu, on est arrivé sur ce scoring qui se faisait entre les joueurs. Voilà, c'était l'idée principale, c'était d'avoir un groupe et que ça aille vite.
Alors, question à vous deux, parce qu'en fait, vous avez opté pour un jeu complètement abstrait. Alors, il y a je l'avais comparé un petit peu lors de ma chronique sur le design, un peu ce qui se faisait avec 10, par exemple, où c'était abstrait, mais il y avait quand même une identité assez forte. Est-ce que vous avez tenté d'y apposer un thème ?
Absolument pas. Nous, c'était vraiment une volonté, justement, pour une fois. C'est vrai que nous, chez Blam, avec nos directeurs artistiques, on est toujours plutôt dans des grandes illustrations, dans des univers assez immersifs. Et là, comme l'a dit Luc, le but, c'était de faire un jeu qui joue à nombreux, un jeu immédiat, un jeu qui joue vite. Et pour, en fait, faire ça, et ça veut dire que l'explication des règles doit aussi être la plus immédiate et la plus simple possible, on a pris... le parti de dire qu'il faut un jeu juste avec des chiffres et des couleurs. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voulait quand même que ce soit un jeu Blam, c'est-à-dire un jeu avec une recherche graphique un peu plus poussée, peut-être que certains autres jeux abstraits. Et c'était super parce que Luc m'a dit, écoute, quand j'ai présenté le jeu, il y a une illustratrice qui était intéressée, qui avait jamais fait de jeu abstrait et qui justement en voulait faire une. Et donc l'illustratrice, donc Maud Chalmel, qui a fait un travail vraiment super, c'est Luc qui nous a soufflé l'idée et avec talent. Je ne sais pas comment vous êtes rencontrés d'ailleurs.
Je dis qu'on est au bon endroit parce que c'est cette année-là au Flip. Maud était là pour des dédicaces sur d'autres jeux. Elle n'est pas souvent là, elle n'est pas là toutes les années. Elle était là cette année-là et en papotant avec elle me dit, bah tiens, moi je ferais bien un petit jeu simple avec juste basé sur des couleurs, des chiffres et je mettrais ma patte. J'ai dit, attends, j'ai quelque chose qui correspond. Si jamais il y a un éditeur qui est intéressé, est-ce que tu veux que je te mette en contact? Et puis après vous verrez si ça marche entre vous. Et elle m'a dit oui, c'est exactement ce que je veux faire. Donc quand j'ai vu que Simon était intéressé et qu'on commençait à avancer un petit peu dans le projet, j'ai dit j'ai quelqu'un d'intéressé, va voir, va tester. Dessus Maud, quand elle a été contactée, Simon le dira mieux que moi, était surchargée, elle en avait par-dessus la tête, elle lui donnait des délais énormes. Et puis finalement elle a fait ça dans la nuit et 2 jours après on avait une première maquette. Et après, bah, côté Simon, ça a eu l'air de marcher.
Ouais, carrément. C'est vrai qu'on était très contents. Et là aussi, c'était une histoire vraiment géniale parce que c'est un jeu qu'on a finalement réussi à sortir en moins d'un an, puisqu'on s'est rencontrés en juillet et il est sorti en juin l'année d'après. Donc, c'est des délais qui sont très, très, très courts, hein, puisque déjà, il faut compter 3 mois pour fabriquer le jeu. Tout allait très vite. Et c'est vrai que bah, Maud y est pour beaucoup parce qu'effectivement, elle avait tellement envie de sortir qu'elle me disait ça, c'est pas possible, je peux pas faire les illustrations avant 2-3 semaines ou 1 mois, je suis pas sûr. Et en fait, le lendemain, j'avais les illustrations dans ma boîte mail. Donc, moi, j'étais toujours en train de lui rappeler tu sais, Maud, tout va bien. On n'est pas obligé de se stresser. Pour nous, c'est pas un jeu qu'on avait prévu vraiment en fait pour cette année, etc., etc. Mais elle avait tellement envie, elle était tellement inspirée par le jeu que tout s'est fait. Et c'est vrai que ça a vraiment contribué à cette espèce de fulgurance dans le développement du jeu, de réussir à faire quelque chose. Voilà, un développement de jeu en 6 mois pour le sortir moins d'un an, ça arrive jamais. En fait.
Et moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que c'est même un an entre l'idée et la sortie. Parce qu'avec Romaric, c'était tout frais. On avait travaillé quelques semaines avant de l'emmener au Flip. Donc, je pense qu'il y a carrément un an entre l'idée et la sortie. Et effectivement, c'est agréable, non seulement parce qu'on voit vite ce qu'on a inventé, mais parce qu'on rebondit tout de suite. On est toujours chaud sur le projet et donc on avance très vite. Et je sais que cet été-là, avec Simon, on s'est beaucoup appelé pour faire avancer nos discussions et pour faire avancer le jeu. Et on est allé très vite et c'est très agréable, ça.
Ah oui, c'est vraiment pas courant, ça. Parce qu'il faut savoir que dans cette industrie, pour les auditeurs... Un jeu, ça peut prendre 2, 3, 4 ans parfois entre le moment où il est même présenté à un éditeur et il arrive sur le marché. Hein. Ça peut prendre beaucoup de temps.
Parfois plus.
Voilà, donc moi, ma moyenne, ça a été 4 ans. Donc c'est vrai que ça prend du temps.
Moi, c'est quelque chose que je souhaite vraiment garder. Moi, là, aujourd'hui, je sais que chez Blam, on a 4 jeux en développement. Ça veut dire qu'on a des jeux qui vont sortir en 2024 et en 2025. Et même si, évidemment, je regarde un peu les prototypes et toutes ces choses-là, j'ai plus envie de signer de nouveaux jeux. Parce que j'ai du mal pour moi à comprendre comment je peux signer un jeu qui va sortir dans 3 ans. Si on se souvient de il y a 3 ans, le monde du jeu, comment il était fait et aujourd'hui comment il est, je trouve que c'est très compliqué, surtout pour des petites boîtes comme nous qui n'ont pas des budgets marketing, etc., qui peuvent vraiment imposer un message ou un jeu dans la communication. Je pense qu'il faut toujours de l'espace pour rester frais. Et voilà, si au moment où Luc et Romaric m'ont présenté le jeu, j'ai été aussi conquis, c'est parce que le jeu, à ce moment-là, était nouveau, était frais, etc. Et donc, il fallait pouvoir aller vite. Et je pense que c'est une des clés du succès de Splito, parce qu'on voit qu'on a été un peu un des premiers jeux de cartes, de tout petits jeux de cartes, autres que le Uno, le Skyjo, etc. à sortir. Tous les éditeurs en cherchaient un, mais on a été suffisamment rapide pour être presque le premier, je dirais. Et là, on voit cette année une profusion de petits jeux de cartes, et le fait d'avoir pu sortir très vite lui a donné une légitimité, lui a donné une visibilité qu'il n'aurait pas eu si on avait mis 2 ou 3 ans à sortir.
Tout a l'air de s'être bien passé, mais j'ai quand même une question. Quelle est la plus grosse merde que vous ayez rencontrée au moment du développement?
Luc, tu veux la raconter ou je le fais?
C'est pas une merde, mais vas-y, raconte.
Ça a l'air d'être évident pour vous deux, en tout cas.
Oui, parce que créer un jeu, c'est toujours, c'est intéressant. C'est des grandes discussions. Il y a un rapport qui est riche entre la vision de l'éditeur et la vision de l'auteur, et qu'il faut des fois réussir à concilier. Et oui, on a eu des grandes discussions en fait sur le scoring, parce que pour les auditeurs qui connaissent pas le jeu, voilà, il y a une partie où on va jouer le jeu et là tout va bien, et puis il y a à la fin de la partie un moment où on va compter les points, et ce scoring, il est forcément un peu long parce qu'il faut passer chaque zone entre chaque joueur, etc., etc. On était assez d'accord au début avec Luc, on voulait faire le jeu le plus simple possible, le plus accessible possible. On disait on veut presque un jeu fast-food, c'est-à-dire un jeu qu'on pourrait imaginer en cadeau dans ces restaurants. Et il y avait certaines cartes qui étaient beaucoup plus compliquées à compter et qui rallongeait énormément en fait le décompte de points. Et là-dessus, on n'était pas forcément d'accord parce que nous, en tant qu'éditeurs, on était partisans d'une vision où on simplifie le tout pour avoir le jeu le plus immédiat, le plus simple possible. Et Luc et Romaric étaient plutôt, eux, dans une vision de « il faut donner beaucoup de profondeur au jeu pour qu'on puisse aller plus loin », etc. Donc ça veut dire que même si le jeu est très très simple, il y a eu pas mal de discussions autour de la valeur des points, des objectifs, et il y a surtout eu de bonnes discussions sur la manière de compter les points. Et en fait, on est arrivé, nous, à cette vision de dire que les cartes, soit on les valide, soit on les valide pas, c'est-à-dire que c'est très facile de voir la valeur des cartes. Là où, dans le prototype original, il y avait des cartes qui donnaient de plus en plus de points pendant la partie. Ça voulait dire que c'était un petit peu plus compliqué de les compter, il fallait se souvenir de la valeur des points, etc. Et donc, c'est vrai qu'on a eu des discussions des fois un peu chaudes, etc. Mais il a fallu convaincre, et je pense que c'est aussi vraiment le rôle de l'éditeur et de l'auteur. Et ce que je suis très content aujourd'hui, c'est de voir que tout le monde est content du jeu. Donc voilà, il a fallu, entre guillemets, lui montrer une certaine vision du jeu et qu'elle marchait bien. Donc voilà, j'ai sorti mon chronomètre pour chronométrer un certain nombre de parties et des temps de scoring pour lui dire là, on peut pas faire un jeu où on joue 10 minutes et où on passe 10 minutes à compter les points, il faut qu'on fasse plus court. Et voilà, et en fait, il suffisait qu'on s'explique bien, il suffisait de montrer en fait que c'était pas juste une lubie d'éditeur, que c'était vraiment quelque chose de sûr. Luc, tu peux compléter.
Voilà, le seul, on a très vite trouvé plein de compromis. Le seul qui était un petit peu encore en discussion, c'est ces objectifs trois couleurs qui valent un point à la fin de la partie, et nous on avait proposé qu'ils valent un point par triplé qu'on réussit, c'est-à-dire si on a deux cartes de chaque couleur, ça vaut deux points, mais effectivement il fallait du coup le multiplier par le nombre de triplés réussis, donc ça on l'a enlevé, c'est ça qui était la plus grosse discussion. Sur tout le reste, on a quand même été très vite pour se mettre d'accord et pour trouver quelque chose de simple et d'évident.
Alors une dernière chose avant de finir, moi quand j'ai vu les ventes de Splito qui commençaient à décoller, je me suis dit qu'ils s'installeraient auprès des grands succès, des Sea Salt and Pepper ou Trio de cette saison, des gros cartons dans ce format, mais en fait, pas vraiment, il n'a pas atteint ses sommets. Simon, est-ce que tu as une analyse? Comment est-ce que tu expliques ça?
Il y a une analyse, c'est qu'il est trop compliqué. Et que même quand on fait un jeu comme ça, même quand on fait un jeu le plus simple possible, avoir un jeu de draft, donc où on passe les cartes sur le côté, avoir un jeu où on joue avec ses voisins, ça fait une deuxième originalité compliquée à appréhender. Un jeu où on va multiplier nos scores avec des cartes à apprendre pour savoir comment on gagne les points, pour atteindre ces sommets-là, c'est trop compliqué. Après, il y a quand même un monde des trios et des Sea Salt and Pepper, il y en a un par année et encore. Et c'est vraiment des choses qui explosent parce que nous, du côté de chez Blam, aujourd'hui, c'est notre meilleure vente. Il a dépassé Celestia, il fait des chiffres incroyables. Là, j'ai regardé rapidement les ventes. On est donc, si on compte en un peu plus d'un an, à plus de 50 000 exemplaires vendus, avec 23 000 exemplaires en France et 27 000 à l'international. Donc, pour nous, c'est une énorme réussite. Et je pense qu'aussi, ça tient pas mal à nous. C'est-à-dire, nous, c'est Blam, on n'est pas tout à fait un éditeur du buzz. On n'est pas vraiment un éditeur qui arrive à faire monter les jeux vraiment très, très fort. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de les faire vivre, les jeux, et de les faire vivre longtemps. Si vous venez sur le flip, vous voyez que sur nos tables, sur le salon, on a encore nos jeux, on a encore Celestia, on a encore Chakra, donc c'est des jeux qui ont 8 et 5 ans. Parce que nous, faire le buzz et qu'un jeu dure 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est pas ce qui nous intéresse. On essaie vraiment de travailler sur le long terme. Donc ça veut dire que voilà, on peut pas prendre toute la place pour un jeu pendant 2 mois. Il faut plutôt travailler tous nos jeux sur le long terme. Et j'ai l'impression que c'est une stratégie qui fonctionne bien, surtout quand on voit les retours des gens qui viennent sur les salons toujours découvrir nos hits et surtout tout l'amour qu'ils ont sur ces jeux-là, c'est hyper touchant.
Bon, pour finir, vous pouvez nous parler un peu de vos projets à venir, des prochaines sorties respectives. Luc, qu'est-ce que tu as là? Sur quoi tu bosses? Pourquoi tu es venu au Flip cette année?
Alors, je suis venu pour de nouveaux prototypes, parce qu'il y a cet espace créateur qui est vraiment très intéressant, et là, il y a plein de choses qui sont en test, notamment avec Romaric et puis avec Jules Messeau, qui est l'auteur de Acropolis. Il y a eu l'Esdor l'année dernière. Donc, cette année. Donc, on a des petits tests là-dessus. Et puis, moi, ma grosse sortie que je montre aussi en avant-première ici à Parthenay, c'est Sky Team, qui sort au mois d'octobre chez le Scorpion Masqué, qui est un coopératif de joueurs de pilotage d'avion, on va dire ça comme ça, avec plein de scénarios et plein de modules dans la boîte, et c'est celui que je suis en train de montrer en ce moment.
Ça me dit bien. Simon, et toi ?
Alors nous, cette année, c'est une année qui est un peu différente, parce qu'en fait, on a été contacté par Pathé pour le film Les Trois Mousquetaires, qui cherchait des jeux et qui voulait faire un carte aventura sur Les Trois Mousquetaires. Donc en fait, on est en train de développer vraiment dans une urgence des mini-scénarios de carte aventura dans l'univers du film Les Trois Mousquetaires. Donc c'est des choses qui sont voilà, qui doivent être faites vite, puisque le but, c'est que ça sorte cette année en décembre, avant la sortie du deuxième film. Donc ça nous prend pas mal de choses. On a un carte aventura sur l'Égypte pour les familles. Et puis sinon, on a toujours nos développements en cours. On a des jeux coopératifs historiques, Roll on White, qui est un peu un mélange de Altré et de Welcome to the Moon, par exemple. Et puis on a un jeu assez intéressant où on va qui s'appelle Sierra, avec des cartes découpées qui vont faire devant nous un panorama de montagnes avec des cartes qui reprennent le relief des montagnes. Et un jeu aussi qui va faire qui va créer des binômes, mais d'une autre manière.
Eh bien, merci. On va se laisser sur ça. On va suivre un petit peu votre actualité. Et puis, à très bientôt. Merci.
Merci, Jérémy. Merci à tous.
Merci à toi.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.